7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous sommes en plein mondial de l'automobile qui se déroule à Paris. Mais peut-on encore fermer les yeux sur ce que signifie désormais la voiture et le transport terrestre dans le réchauffement climatique? Comment est-on passé du rêve de la bagnole, synonyme d'émancipation, d'élévation sociale, de créativité technologique et esthétique d'ailleurs, à celui de cauchemar éveillé, engorgement du trafic routier, augmentation des temps de trajet entre le domicile et le travail? Comment tourner la page d'un chapitre de l'insouciance quand une bonne partie de la planète n'a même pas encore bu la première gorgée de cette liberté motorisée? La France, avec le réseau routier le plus dense d'Europe, compte plus de véhicules que l'Inde. Cherchez l'erreur. Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié ce lundi, évidemment, son rapport alarmant sur le réchauffement climatique. Alors, comment doivent évoluer les véhicules et leurs usages? Faut-il croire à la voiture électrique, autonome, pour mieux respirer, circuler dans les villes de demain? Et quelle amélioration aussi peut espérer l'Afrique, qui recycle à l'heure actuelle les véhicules devenus polluants pour l'Europe? Bref, avec 2 milliards de voitures prévues en 2040, quelle route faut-il emprunter? Appelez-nous les voisins si vous nous écoutez dans les embouteillages. Et oui, c'est la force pour RFI, évidemment, c'est là qu'on gagne des auditeurs, c'est terrible. Quelle est la place de la voiture dans votre vie? Prison ou paradis à crédit? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Alors, je vous présente nos invités. À Bordeaux, Laurent Castagnède, ingénieur centralien, bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé pendant 10 ans dans l'industrie automobile et vous publiez Ervor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée. Alors, Ervor, ça n'existe pas dans la langue française, on est bien d'accord.
Ben, j'ose espérer que dans quelques années, ça apparaisse, au même titre que le terme énergivore, par exemple, qui s'applique au bâtiment glouton.
Comment la voiture grignote notre oxygène? Vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Gironde. Thomas Morales, bonjour.
Bonjour.
Journaliste passionné de voitures, notamment de collection, mais pas que. Vous publiez Éloge de la voiture, défense d'une espèce en voie de disparition. Jean-François Doulet, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes géographe, Université Paris-Est, Créteil, et vous publiez, vous copubliez d'ailleurs avec... vous publiez tout seul, il y a la préface de Christian Peugeot. Vous publiez cet atlas de l'automobile qui est extrêmement visuel, extrêmement bien fait, qui décrit bien d'ailleurs la fuite en avant. Et puis en fin d'émission, un tout autre sujet, l'Afrique qui gagne, portrait d'une Ougandaise, une jeune Ougandaise de 23 ans, Esther Nagajigo.
Bon voyage, monsieur Antoine.
Ah ouais, je vais revenir tout bronzer. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus.
C'est pas grave,
vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, ouais, plus, voilà.
Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie.
Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite.
Mais je ne suis pas pressé, moi.
Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Ouais. Ah, voilà, c'est là. Mais, c'est fini, oui.
Mais je vous en prie.
Alors, voici ma carte.
Hein?
Voici ma carte, mon agent d'assurance vous contactera, voilà.
Ah, okay. Vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot. Avec sa grosse bagnole.
1965, un classique du cinéma français, Le Cornio. Bourville se fait pulvériser sa deux chevaux par De Funès en Rolls. Place du Panthéon, dans un Paris quasi désert. Thomas Morales, vous êtes un nostalgique, dites-vous, de la chose roulante. C'était vraiment le bon temps, quand même.
Ah là, particulièrement dans Le Cornio, c'est l'âge d'or de l'automobile. Il y a une diversité des carrosseries qui est quasiment incroyable. De Funès en Rolls, Bourville en deux chevaux. Il y a tout un passage en Italie, on voit des Fiat, des voitures anglaises, des Austin Healey, des Jaguar Types. Pour l'amoureux des belles lignes, oui, c'est peut-être l'apogée de l'automobile, mais c'est ça, c'est le milieu des années 60.
D'ailleurs, bon, dans le cinéma, il y a les hommes, les femmes et les voitures, hein, quand même. C'est presque un troisième personnage à chaque fois.
Dès le départ, mais même Méliès filme l'industrie automobile et l'industrie du cinéma vont de pair. Hein. Laurel et Hardy, c'est une Ford T. Puis après, vous avez les années 60 et 70 qui sont de grandes années où l'automobile est quasiment un personnage au même niveau qu'un acteur.
Ouais, hein. C'est ça. La cigarette a disparu du cinéma. On se dit que peut-être la voiture va disparaître du cinéma. Cinéma aussi, parce que ça sera plus politiquement correct. Hein,
Oui, comment refaire Bullitt sans une Ford Mustang, par exemple
hein. Laurent Castagnède, qu'est-ce qui a déraillé dans l'histoire de la bagnole? Parce que là, on l'entend bien, en plus, la fameuse deux chevaux qui se fait pulvériser, c'était des voitures très légères à l'époque.
Oui, alors je voudrais préciser, c'était l'âge d'or de l'automobile, ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'en fait, dans le film, Bourville, en fait, il joue le rôle du français moyen. Et à l'époque, le français moyen, il a tout juste les moyens de s'acheter sa première voiture. Il y a la moitié des gens encore qui vont à leur travail à vélo ou à pied. Donc la voiture du français moyen, c'est vraiment la voiture la moins chère et c'est la deux chevaux. Donc il faut quand même replacer les choses dans le contexte. Les belles voitures de l'époque n'étaient quand même accessibles qu'à une certaine élite financièrement. Donc voilà, il se fait pulvériser effectivement sa voiture qui est... la Rolls-Royce est à peine égratignée. C'est intéressant de voir ce film, de voir la réaction sur l'instant, le passage qu'on a entendu, avec finalement Bourville qui partait en vacances en Italie en deux chevaux. Imaginez la durée du trajet. En fait, pour lui, le trajet, le voyage, faisait complètement partie des vacances. Il lui fallait plusieurs jours pour aller là-bas, nécessairement, avec plusieurs hôtels. Alors que finalement, De Funès, lui, ben finalement, il dit « Mais prenez l'avion, ça va plus vite. » Et c'est vraiment la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où le voyage n'existe plus, on téléporte les gens d'un endroit à un autre le plus souvent, et la notion du voyage est complètement perdue.
Alors le mondial de l'automobile, aujourd'hui, sous quel signe le placer? Comment vous sentez le climat sous le signe de l'optimisme ou de l'inquiétude, Jean-François Doulet?
Je pense que les constructeurs automobiles, par nature, sont toujours un peu inquiets. Et ils sont certainement conscients que l'automobile est à un tournant, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Et d'ailleurs, le mondial d'aujourd'hui, il a un signe particulier, c'est qu'il est sous le signe du digital. Hein, les organisateurs du mondial de cette année ont passé un partenariat avec le CES, hein, le salon des objets numériques électroniques de Las Vegas. C'est bien le signe aussi que l'automobile, qu'on vient de décrire, cet âge de l'automobile est devenu d'un autre âge et que l'automobile aujourd'hui entre dans un nouvel âge qui serait celui de la modernité, du numérique, du digital. Donc voilà, effectivement, je pense qu'il y a un débat de fond, hein, sur ce qu'est devenu l'automobile.
Vous voulez dire qu'aujourd'hui, l'industrie automobile est plus inquiète de se faire dévorer tout cru par les GAFA, par Google, etc., que de se demander si on peut rouler réellement plus propre?
Je ne mettrai pas les choses comme ça, mais effectivement, d'un point de vue de la création de valeur et du partage de la valeur, effectivement, ils ont peur que les bénéfices issus de la mobilité de demain soient plutôt entre les mains des GAFA qu'entre les leurs.
Et pour vous, Thomas Morales, alors comment vous sentez le mondial de l'automobile? Vous y avez passé pas mal de temps là déjà.
Oui, j'y suis allé déjà deux jours entiers. Déjà peut-être une déception pour l'amoureux du bel objet automobile, c'est que quasiment... la moitié des nouveautés sont des SUV électriques. Donc là, on a quand même perdu une grande pluralité de stylistiques. Et puis, l'absence, quand même, il faut quand même le noter, l'absence d'un certain nombre de constructeurs, presque un tiers des constructeurs, et pas les moindres, hein, Mazda, Ford, Volvo, les Italiens, Fiat, Alfa Romeo. Bon, ça donne quand même une indication sur le moral du monde automobile.
Absence pourquoi ?
Officiellement absence parce que le mètre carré des stands coûte cher, qu'il faut mobiliser un certain nombre de personnels pendant la quinzaine. Moi je n'y crois pas vraiment à cet argument économique. Je pense que le salon auto comme on l'a connu et moi comme je l'aime est terminé. Voilà, c'est quelque chose qui va disparaître. On ne vend plus une voiture dans un salon automobile. Les constructeurs sont plus intelligents que ça. Ils savent qu'ils ont d'autres canaux pour capter des acheteurs auto.
Donc c'est pas l'endroit pour aller découvrir de nouvelles technologies, de nouvelles créations. Laurent Castaigniède, on a le rapport ce matin du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Quelle est la part des transports routiers dans les émissions de CO2 à l'heure actuelle ?
Oui, alors je voulais rebondir juste avant sur effectivement, moi aussi, je trouve un peu horrible, comme Monsieur Morales, le fait qu'on ne présente que des gros SUV électriques, pas pour la même raison, c'est simplement qu'on laisse croire aux gens que le véhicule vert, c'est celui-là, qui va faire 2 tonnes, 2 tonnes et demie, qu'on va retrouver en ville au milieu des piétons et des cyclistes. Et je pense que c'est juste le début de l'horreur. Donc sinon, pour répondre à votre question, du point de vue des gaz à effet de serre...
Le début de l'horreur ou le début d'une hypocrisie finalement, d'une imposture
pour
le consommateur ?
Oui, c'est une schizophrénie. Oui, effectivement, une imposture peut-être pour le consommateur.
Qui lui va
surtout
penser à acheter un véhicule propre.
Voilà, c'est ça. Et surtout pour les gens qui sont autour, qui vont subir le fait qu'on va avoir des véhicules beaucoup trop gros, beaucoup trop puissants, qui vont devenir dangereux vis-à-vis de piétons et de cyclistes, qui eux n'ont pas une carrosserie qui est en train de pousser et de grossir avec des airbags pour vélo, si vous voulez. Vous voyez ? Donc voilà, le fossé s'élargit finalement entre les modes doux et la voiture elle-même qui est en train de dériver complètement.
Sur ce point-là que vous évoquez, il y a un petit exemple intéressant, c'est la Norvège. La Norvège est le seul pays au monde où la voiture automobile électrique a une place assez conséquente. On est autour d'un quart du parc. Et Oslo, ou Stockholm, je ne m'en souviens plus maintenant, a décidé, c'est à l'état de projet, de taxer les gros véhicules électriques. Hein, donc on a pendant longtemps on a promu le développement.
C'est la Tesla tax, c'est ça.
Voilà, quelque chose comme ça. Oui.
Amusant, c'est que la Norvège est un exportateur de pétrole, mais qu'il se fixe comme objectif d'être au tout électrique.
Voilà, mais c'est le seul pays qui a réussi en tout cas à aller très loin dans la promotion en termes de politique publique du véhicule électrique.
Sur les gaz à effet de serre, effectivement, la Norvège est un des rares à pouvoir avoir quand même une certaine légitimité, parce que le problème de la voiture électrique, c'est quand même qu'il faut de l'électricité, et pour fabriquer cette électricité supplémentaire, parce qu'en fait, on va avoir une augmentation de la demande, les voitures thermiques ne croisent pas le réseau électrique, et la Norvège est un des rares pays qui est capable de prouver qu'une électricité supplémentaire sur son réseau correspond à des barrages qu'il est capable de construire uniquement pour cela. Alors qu'en fait, dans les autres pays, souvent, on a des énergies renouvelables qui se développent, par exemple beaucoup en Chine, mais en fait, elles sont plus là pour essayer de se substituer à la fabrication fossile de l'électricité plutôt que de proposer à des nouveaux objets, qu'ils soient une voiture ou autre chose, de satisfaire des nouveaux besoins électriques. Donc finalement, dans le monde, grosso modo, toute demande d'électricité supplémentaire, en gros, c'est du charbon, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire, du coup, un bilan carbone qui n'est pas terrible. Alors, on exclut de quelques dizaines de kilomètres des centres-villes vers les centrales électriques la pollution, au niveau CO2, ce qui est déjà très bien, on va dire, enfin, ce qui est déjà pas mal pour les gens qui vivent à l'intérieur des villes, mais ce n'est pas non plus la panacée à zéro émission.
Effectivement, pour aller dans votre sens, rappelons simplement un chiffre. La principale source d'émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui, c'est la production d'énergie et d'électricité. C'est un peu ce que vous dites. Donc ça paraît un peu paradoxal.
C'est une grosse source, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, les transports dans le monde, c'est quand même un tiers des gaz à effet de serre. Si vous voulez, officiellement, on parle de 15%, 18%, mais en fait, on ne compte que le CO2. Que le CO2 qui sort du pot d'échappement. En fait, il faut aussi fabriquer les voitures, construire les routes, les parkings, toutes ces choses-là qui vont, les aéroports, les ports.
D'accord,
et
là
finalement,
vous faites un
tous
calcul
les transports
élargi.
Motorisés. Voilà, c'est ça. Tous les transports motorisés, c'est un tiers des gaz à effet de serre mondiaux aujourd'hui.
Oui, mais enfin, en même temps, les routes, elles servent aussi aux cyclistes, cas dans les villes.
Le rapport du GIEC. Ah, pardon.
Oui, je vous en prie.
Le rapport du GIEC de 1,5 degré qui est paru ce matin. En fait, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est le désarroi des climatologues, en fait. C'est-à-dire que d'année en année, de rapport en rapport, finalement, ils ont l'impression d'être la chambre d'enregistrement de l'augmentation des températures et des dégâts qui vont avec. C'est-à-dire finalement, c'est le scénario le pire qu'ils ont commencé à tracer il y a quelques décennies, qu'on est en train de parfaitement suivre. Et je pense que ce sont des gens qui sont très, très tristes et déprimés aujourd'hui.
Le Parlement européen s'est prononcé la semaine dernière pour une baisse de 40% des émissions de CO2 des voitures. Donc ça veut dire que les normes vont être de plus en plus drastiques, si on comprend bien, nous, les profanes de l'automobile.
En fait, il faut voir comment sont faits les calculs aussi. C'est-à-dire que là, on parlait de la voiture électrique qui n'est pas du tout à zéro CO2, sauf que dans les calculs de moyenne de ces calculs-là de baisse de grammes de CO2 officiels, toute voiture électrique est comptée à zéro. même à certains moments, elle a même été comptée double, vous voyez. Donc du coup, on a une baisse de CO2 qui est finalement un peu artificielle. J'ai peur que dans quelques années, on ait l'electric gate qui sorte. Et l'electric gate, ça sera de constater dans quelques années qu'on aura un certain pourcentage de notre parc qui sera électrique, que les polluants n'auront pas du tout diminué. On en fera l'analyse et ce qu'on constatera, c'est ce qu'on voit au salon de l'auto, c'est-à-dire que les batteries auront été gaspillées dans des véhicules beaucoup trop lourds, dans des usages pas nécessaires et que les deux roues resteront thermiques et que beaucoup de voitures urbaines resteront thermiques et qu'on aura fait des hybrides rechargeables par-ci et pas du tout une légère hybridation totale.
Oui, c'est vrai que la question électrique pose une question de prospective importante. Quel type d'électrification des véhicules voulons-nous? Effectivement, à écouter et à voir les exemples de ces gros SUV, et l'exemple de Tesla en particulier.
Est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est qu'un SUV?
Voilà, un SUV, c'est un Sport Utility Vehicle, donc c'est une espèce de...
Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble, c'est un 4x4, un mélange entre 4x4 et une berline.
C'est un mouton à 5 pattes, c'est quelque chose d'hybride entre une berline, un break et un tout-terrain.
En quoi c'est censé être une innovation?
Moi, je pense que c'est un objet qui permet de tout faire. C'est-à-dire, vous imaginez une voiture où vous voulez mettre beaucoup de marchandises, beaucoup de gens, aller un peu partout. En fait, vous mettez tous les critères ensemble et en fait, à la fin, vous faites un SUV. Sauf qu'en fait, chaque critère, vous l'utilisez que de temps en temps, voire jamais.
C'est une
et vous obtenez un véhicule beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd.
Ouais. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Bien sûr, on va continuer à parler de l'électrique. Peut-être aussi qu'on parlera de la voiture autonome. Mais il faut aussi qu'on parle des gigantesques inégalités du parc automobile dans le monde entier. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de région parisienne, de Chelles précisément. Bonjour Pascal.
Bonjour.
On vous écoute Pascal, vous êtes en direct.
Alors, j'ai travaillé beaucoup dans l'automobile, puisque mes connaissances automobiles m'ont amené à être responsable R&D d'une écurie de Formule 1 pendant 3 ans. Mais j'appelais pas pour dire ça, c'était pour quand on parle de pollution et des pollueurs. C'est facile, alors, pour dire 2 choses. La première, c'est celle-là. C'est qu'il suffit de voir qui a lutté le plus contre l'effet de serre en voulant cacher l'information. Pour avoir aussi travaillé un petit peu de loin pour eux, c'est très simple. À l'échelle de la France, par exemple, nous avons Total. C'est-à-dire, qui sont ceux qui polluent le plus la planète? C'est très simple. Il suffit de regarder ceux qui ont dépensé des milliards et des milliards pour faire croire qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Et ces puissants du monde, eh bien, c'est eux qui, par lobby, vont faire en sorte que les gouvernements n'agissent pas réellement pour lutter contre le réchauffement climatique. Le deuxième point, c'est... Bon, là, ça laisse tout fermer en disant, mais mince, Pascal, toi, le petit individu, tu pourras rien faire contre ces milliardaires. Oui, c'est sûr. Maintenant, comment agir? Il y a une chose très simple. C'est que là, on parlait de véhicules, qu'ils soient électriques ou au diesel ou à l'essence. L'humain perd énormément de temps dans les transports, vous l'avez dit. Eh bien, un moyen très simple. Vraiment, je suis sûr que ça annulerait très vite. Ça réduirait de manière très sensible le temps passé dans les transports. Il suffirait simplement de considérer et de faire une loi qui dit que quand la personne part de chez elle pour aller au travail, eh bien, ce soit rémunéré parce que ça fait partie du travail. Là, l'exemple est très simple. Je suis un grand, encore milliardaire, et je construis une tour à la Défense. Et je dis à tous les gens de la région parisienne, vous vous débrouillez, j'en sais rien, mais je veux que vous soyez au bureau à telle heure.
Oui, bah c'est ça la règle d'ailleurs, en général. Hein, vous vous débrouillez, mais vous commencez votre travail à telle heure. C'est ce qui se passe en général, donc, partout.
Tout à fait. Et moi, pour avoir travaillé dans pas mal d'entreprises, je voyais des personnes qui passaient facilement 2 heures pour venir, 2 heures pour partir. Et parfois, j'en ai fait partie. Et maintenant, vous dites, la rémunération, le temps, c'est de la rémunération parce qu'on commence à considérer le travail quand vous partez de chez vous.
Vous voulez dire pour que les entreprises soient davantage impliquées dans le temps passé des salariés dans les transports, hein, c'est ça en gros pour...
Alors, pas l'entreprise, parce que là, c'est une petite erreur qu'on entend souvent. L'entreprise est... Non, il y a le patron. L'entreprise, les ouvriers font partie de l'entreprise. Donc moi, quand je suis consultant, je fais partie de l'entreprise. Donc c'est pas l'entreprise. L'entreprise, c'est aussi les personnes.
L'employeur. D'accord.
L'employeur.
Okay.
Voilà,
on est bien d'accord. Oui, c'est une proposition. Pourquoi pas, Jean-François Doulet?
Oui, donc là, on touche à un sujet intéressant qui est déjà de longue date. C'est comment réduire l'usage de l'automobile avec des outils de l'urbanisme. Et bon, la France travaille depuis de nombreuses années déjà sur ce type de sujet avec, par exemple, les plans de dépassement d'entreprise qui ont été rendus obligatoires cette année et donc qui obligent les employeurs à s'informer sur la mobilité des salariés et à proposer aux salariés des alternatives à l'autosolisme.
Avec quels effets dans les faits?
Le problème, c'est qu'ensuite, il y a la liberté individuelle et la liberté individuelle, ça passe beaucoup par les stratégies résidentielles.
Le temps de trajet domicile-travail ne cesse d'augmenter. Laurent Castellier.
Le résultat est complètement mineur. Je voudrais bien répondre aux deux questions de l'auditeur. La première question, il faut regarder, je suppose qu'il est au courant, de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je crois que c'est Los Angeles, la ville d'Oakland, deux villes en Californie et à New York, où actuellement il y a des plaintes qui ont été déposées par les villes auprès des 5 grands gros groupes pétroliers mondiaux. Je ne crois pas qu'il y ait Total dedans, mais il y a Shell, il y a Exxon, etc. Ils leur réclament plusieurs dizaines de milliards de dollars parce qu'ils ont, il y a des documents qui ont fuité comme quoi, effectivement, en interne, chez eux, il y a quelques décennies, les scientifiques internes leur disaient « Attention, on va vers un réchauffement climatique dramatique. » Et ils ont organisé, on a des preuves, effectivement, la contre-offensive scientifique, exactement comme les cigarettiers, donc, qui se sont fait condamner aux États-Unis. Donc ça, c'est en train d'émerger. Il faut suivre ces plaintes qui sont parties aux États-Unis. Très important. Ensuite, sur le deuxième point, c'est une proposition dans mes 40 pages que je propose, c'est-à-dire elle est page 284 de mon livre. Effectivement, Bernard Charbonneau, le compagnon de Jacques Ellul dans les années 60, écrivait effectivement, lui, il voyait bien que chaque salarié, il avait un deuxième travail, c'était l'emploi de chauffeur de lui-même. Et donc, il voyait bien que les gens passaient de plus en plus de temps, un nombre d'heures par semaine conséquent, dès les années 60, simplement pour se rendre à leur travail. Et donc, effectivement, moi, c'est une proposition, dans mes 40 pages de propositions que je propose, je suis bien content que quelqu'un l'ait pensé parallèlement. Et ce qu'il faut se rendre compte, pourquoi ça ne marche pas, les plans de déplacement? Parce que le cœur du sujet, c'est que l'automobile, elle est trop bon marché. Elle est trop bon marché et du coup, elle est trop accessible. Et du coup, par rapport à la valeur foncière, eh bien finalement, on fait rapidement un calcul de se dire « Il vaut mieux que j'aille habiter à 30 km de mon travail avec une voiture, je vais pouvoir faire des allers-retours. » Et finalement, c'est moins cher ça que d'habiter près de mon travail où le foncier est plus cher.
Parmi vos propositions, vous proposez notamment que ce soit les automobilistes qui financent les constructions de routes, par des systèmes d'ultra-péage, etc. Alors, je voudrais quand même, parce qu'il y a quand même une grosse partie
de vignettes.
De vignettes. Enfin, il y a une grosse partie de la planète qui nous écoute et qui précisément, sur le continent africain, Jean-François Doulet, n'a pas accès à la voiture, pratiquement pas, grosso modo.
Effectivement, là, jusqu'à présent, on a eu des débats de pays riches. La voiture reste quand même un superbe indicateur de développement et d'émergence. On se rend compte que la voiture est très présente là où, effectivement, les pays sont les plus riches. Et lorsqu'on constate cette corrélation entre voiture et développement, on est bien obligé de regarder l'Afrique. Et effectivement, en Afrique, c'est là où on a le moins de voitures par habitant dans le monde. Et pourtant, c'est là où la voiture tue le plus dans le monde. Donc effectivement, il y a peut-être des endroits où il y a trop de voitures, on s'en plaint, mais il y a aussi des endroits où on n'a pas beaucoup de voitures et on est en droit de s'en plaindre aussi, parce que l'automobile, quand même, dans le monde entier, où que nous soyons, c'est l'outil qui permet la mobilité individuelle et même qui permet la mobilité tout seul, puisque dans la plupart des cas, l'automobile, quand même, elle remplit au moins les trois quarts, si ce n'est plus, des déplacements. Donc effectivement, des grandes inégalités d'équipement.
Sans parler de l'émancipation pour les femmes, notamment en termes de sécurité, etc.
Bien sûr. Dans de nombreux pays en développement, pour une femme, accéder à l'automobile, c'est aussi la garantie de sa liberté individuelle. Et regardons ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Le 24 juin dernier, le roi a enfin permis aux femmes saoudiennes de passer le permis de conduire. Un long travail de femmes et de progressistes depuis plusieurs années. Donc il ne faut pas non plus négliger le rôle que peut jouer dans certains contextes, dans certaines sociétés, l'automobile.
Le continent africain à l'heure actuelle, c'est le continent de la non-voiture, dépit de ce qu'on peut voir à l'œil nu dans les capitales engorgées.
Effectivement, lorsqu'on regarde en moyenne, c'est là où il y a le moins de voitures. On a des pays où on a moins de 25 voitures pour 1000 habitants, c'est-à-dire 10 fois, 15 fois moins qu'en Europe ou dans les autres pays développés.
Alors on peut aussi comparer quand même la France et l'Inde. La France, 32 millions de véhicules, l'Inde, 22 millions. La France, 65, 67 millions d'habitants et l'Inde, 1,3 million. Donc je ne sais pas si on peut même imaginer le rapport, mais c'est juste complètement fou. Un auditeur nous appelle de Lomé au Togo, justement. Paterne est en ligne avec nous. Bonjour, Paterne.
Oui, bonjour.
Alors, Paterne, vous, vous avez un véhicule personnel ou pas?
Non, pas encore. J'ai juste une moto.
Vous avez une moto. Et oui. Quand vous dites pas encore, ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire que forcément j'en aurai. J'ai quand même l'intention d'en payer plus tard.
Mmh. Et quelles sont les projections que vous faites sur cette façon de posséder une voiture et les questions que vous vous posez?
Non, mais j'ai dit simplement que je l'aurai quand je serai plus grand. Seulement, le choix va se porter sur une voiture assez écologique. Je crois quand même que le réchauffement climatique et tout ce qui va avec doit vraiment nous alerter et repenser nos comportements.
Une voiture allumée, c'est indispensable pour se déplacer,
oui. Pour
montrer
oui,
qu'on réussit ou pourquoi? Pour quelle raison?
Oui, un mois de déplacement, c'est vraiment important parce que ça coûte assez cher. Et lorsque tu n'en as pas, c'est difficile de se rendre, de vaquer librement à ses occupations.
Ne serait-ce que donc pour progresser dans son travail et pour être plus efficace. Hein. Je crois que vous travaillez dans le secteur de la mode, hein, Paterne. Merci
c'est
beaucoup
ça.
De nous avoir appelé. Merci aussi à Pascal de nous avoir appelé en région parisienne. Juste une petite parenthèse sur les véhicules d'occasion qui arrivent sur le continent africain. Laurent Castagnède, vous nous disiez tout à l'heure que déjà il y avait une grosse différence, enfin que les véhicules sont sur le papier de plus en plus propres, en tout cas dans l'affichage. Vous émettiez, bon, on ne va pas refaire l'histoire du scandale Volkswagen, qui d'ailleurs n'est pas isolé, mais dans la réalité, en tout cas, c'est moins le cas. Que se passe-t-il pour les véhicules d'occasion qui partent vers le continent africain?
Oui, alors donc effectivement, c'est une petite catastrophe et je pense que ça va augmenter. Le problème, c'est la mortalité. On a cité la mortalité, mais on n'a parlé que des accidents de la route, en fait, qui sont à peu près entre 1 milliard 200 millions et 1 milliard 300 millions de morts par an. Mais en fait, ce qui tue le plus, c'est la pollution de l'air.
Attendez.
C'est la pollution de l'air.
Vous dites plus d'un milliard de morts? Non.
C'est 1 million,
non,
excusez-moi.
Pardon.
1 million 200 000, pardon, excusez-moi.
Pardon.
1 million 200 000 morts par la route. Et en fait, entre 4 et 5 millions par la pollution de l'air extérieur. Alors si on prend la part des transports dans ces polluants, ça va dépendre des polluants, mais on va partir sur à peu près un tiers, ça veut dire qu'il y a, grosso modo à l'échelle mondiale, à peu près autant de morts par la pollution de l'air des voitures que par les accidents. Pour revenir un petit peu à l'Europe, en pays occidental, l'écart est beaucoup plus prononcé. En France, on a un peu moins de 4000 morts sur les routes par an. Par les polluants, c'est un petit peu plus de 50 000. Donc en fait, par les transports, ça devrait être entre 15 et 20 000. Donc en fait, l'automobile aujourd'hui, elle tue plus par les pots d'échappement en fait que par les accidents.
Parce qu'on a
sauf
beaucoup
que
progressé
c'est moins
en France sur la sécurité routière.
Voilà.
Hein, il faut le
alors
préciser.
Tout à fait, il y avait 4 à 5 fois plus de morts au début des années 70, effectivement, sur ce point-là. Alors pour répondre à votre question sur l'Afrique, effectivement, dans le livre, je décris un moment, tout un chapitre sur la vie d'une voiture, vraiment depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et son démontage, on va dire, ou son dépeçage. On va dire plus ou moins en Afrique. Et effectivement, au début, elle est toute neuve avec sa norme, elle est bien entretenue par quelqu'un qui a les moyens. Donc finalement, on va dire, on respecte exactement en Europe la bonne huile, on maintient tout en place. Et puis finalement, elle vieillit. Après, elle est vendue d'occasion. On sent bien que les systèmes de dépollution, qui aujourd'hui sont de plus en plus externes au moteur, coûtent très cher.
C'est-à-dire
et du coup, ils sont,
quoi, par exemple,
ils sont fragiles.
Particules.
Tous ces catalyseurs, filtres à particules, systèmes à traitement à l'urée, tout ça, c'est bourré de métaux précieux. Déjà, en soi, c'est du métal, c'est des objets physiques qui sont beaucoup plus volumineux qu'à l'époque où c'était un simple tuyau. Donc du coup, ça, en pièce neuve, lorsque la voiture est assez âgée et que ça commence à finalement se devenir moins performant, ben changer, ça va être un ordre de grandeur presque autant que la valeur vénale d'une voiture qui a 150 000 ou 200 000 km. Donc en gros, la grosse crainte, c'est que ça soit simplement démonté. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec les émissions de base du moteur qui vont directement sortir à l'échappement. Et on va se retrouver avec des véhicules qui seront en fait plus polluants que les générations d'il y a 20 ans, qui finalement arrivaient en Afrique avec, on va dire, un catalyseur qui quand même est traversant et marchait encore à peu près bien, qu'on laissait à peu près sur place. Et donc, il est à craindre, en fait, que l'Afrique se fasse davantage polluer par les voitures modernes qu'elle ne se le faisait par les voitures d'il y a une vingtaine d'années.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. À l'occasion du Mondial de l'Automobile, on se pose des questions sur cette voiture. Partout dans le monde, tout le monde souhaite accéder à la voiture, sauf dans les villes où certains citadins chanceux n'en ont pas vraiment besoin. Alors comment concilier ce désir de voiture, d'émancipation, de liberté, etc., avec aujourd'hui, évidemment, les rapports alarmants sur le réchauffement climatique. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
On a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Afrique, on n'a pas encore parlé d'ailleurs de l'Amérique qui n'a pas tout à fait les mêmes modes de consommation que l'Europe. Jean-François Doulet, mais les pays émergents, la Chine, l'Inde, l'Iran, comment se dessine la consommation de voitures ?
Effectivement, pour revenir sur la réaction précédente, la question de la voiture dans les pays émergents pose un problème, effectivement, et qui est un problème fondamental. Est-ce qu'on doit privilégier les questions climatiques ou doit-on privilégier les questions socio-économiques ? Est-ce qu'on peut demander à toute une population de renoncer à l'automobile ? Je pense que c'est un grand sujet. Effectivement, là où le nombre de voitures augmente le plus, ce sont dans les pays émergents. Et la Chine est le premier de ces pays émergents qui a aujourd'hui, le marché chinois a aujourd'hui dépassé le marché américain. Il se vend 24 millions de véhicules automobiles par an en Chine contre 17 millions aux États-Unis. C'est là où on a en plus la plus forte croissance. Et c'est vrai pour beaucoup de pays émergents dans lesquels les classes moyennes sont très friandes effectivement de nouveaux éléments.
Et en même temps, la Chine est un pays où les autorités chinoises ne ferme pas les yeux sur les défis climatiques, notamment les défis de pollution dans les grandes villes chinoises. Alors, quelle est l'attitude de la Chine aujourd'hui ? Est-ce que c'est un pays à observer absolument pour nous ?
Bien sûr, c'est le premier marché mondial de l'automobile. Donc, tous les constructeurs y sont, tous les constructeurs vendent des voitures là-bas, et aujourd'hui, tous les constructeurs sont confrontés à la concurrence des marques locales, qui également ont amélioré leur offre. Effectivement, la Chine s'aligne un peu sur la culture de la régulation européenne, et elle avait déjà, il y a quelques années, décidé de prendre comme étalon la norme Euro, qui est une norme qui contraint les constructeurs dans les émissions permises par les véhicules automobiles. Donc effectivement, c'est un pays qui essaie de travailler sur deux tableaux, le tableau de l'émancipation des classes moyennes et le tableau de l'environnement. Mais donc c'est extrêmement subtil, extrêmement difficile pour une population d'1,3 milliard d'habitants.
Subtil ou infaisable ?
Infaisable, ils le font. Donc effectivement, les normes nationales sont de plus en plus strictes. Elles s'imposent de plus en plus aux constructeurs qui produisent en Chine. Les villes chinoises ont mis en place aujourd'hui des systèmes de monitoring et d'observation des polluants atmosphériques, voire des mesures de gestion du trafic pour tenter de limiter un peu les effets de la pollution atmosphérique. Donc c'est quand même extrêmement compliqué pour la Chine. Et après, c'est la question de l'horizon. À quel horizon, effectivement, va-t-on voir des effets de ces différentes mesures ? Bon, effectivement, ça pose une question pour l'avenir.
Thomas Morales, sur l'avenir, on a commencé cette émission d'emblée en parlant de la voiture électrique, alors qu'en fait on n'y est pas du tout, même l'hybride ça représente encore, je sais pas, sur le marché mondial
Le tout, hybride full électrique et hybride, on est à 3% maximum.
Oui, pour vous, l'amoureux de la voiture, Thomas Morales, vous disiez en début d'émission que vous étiez à la fois assez attristé de ce que devient le mondial de l'automobile dans son aspect le plus culturel de la voiture, parce qu'on ne peut pas nier aussi un aspect très culturel de la voiture. La voiture électrique, est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer de faire rêver ? Parce qu'on voit bien que pour faire évoluer la voiture propre, il va falloir aussi continuer à maintenir le rêve.
Ah, c'est tout le paradoxe. Voilà. Moi, je ne crois pas beaucoup à la voiture électrique et à ses vertus écologiques. Et pour vendre des voitures, il faut que l'objet soit désirable. Donc, si on s'engage dans la voie du SUV, effectivement, je dis souvent, je fais une analogie avec un costume, le SUV, c'est une veste trop ample, c'est un costume qui est mal taillé, qui est dépersonnalisé. Voilà, nous sommes... prenons 1960, 1965.
Là-dessus, vous êtes d'accord avec Laurent Castagnette.
Ah, bien sûr.
C'est des véhicules qui sont trop
complètement
gros.
Complètement d'accord.
Hein.
Moi, je milite pour la légèreté. Et en ça, je suis très, très 60s. Je fais mienne l'ancienne de Colin Chapman, le fondateur de Lotus. Light is right. Voilà. Une voiture doit forcément être légère.
Mais pour répondre aux défis climatiques, une voiture ne pourra pas être désirable selon vous ?
Ah, c'est aux constructeurs. La balle est dans le camp des constructeurs. Voyez, moi je suis, je carbure à la nostalgie, je suis adepte du volant, de la boîte mécanique, du cuir, de la ronce, de noyer.
C'est ça, vous n'êtes pas mûr pour la voiture autonome.
La voiture autonome, connectée, une appli, bon, tout ça, ça ne me parle pas, c'est pas ma culture. Voilà, moi je défends les cultures automobiles du monde d'avant, en sachant que ce monde d'avant est terminé. Hein.
Ouais. Alors ceci dit, Laurent Castagnède, la voiture du monde d'avant, ça n'est pas souhaitable qu'elle survive, mais la voiture du monde de demain, vous êtes pratiquement aussi critique sur la voiture électrique ou sur la voiture autonome.
C'est-à-dire que oui, non mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thomas Morales. Hein. La voiture électrique, pour moi, il ne faut pas imaginer de toute façon, en termes de métaux pour aller extraire d'ici 30 ou 40 ans les métaux pour pouvoir faire des batteries pour 100% des voitures électriques du monde, c'est-à-dire 1 milliard de voitures, annoncer 1,7 milliard de voitures dans le parc à l'horizon 2035, c'est juste impossible. Donc ça veut dire que soit on laisse le marché attribuer les batteries.
Parce qu'on est déjà dans une phase de raréfaction des métaux.
Oui, et puis l'extraction.
Le lithium qui se situe en Amérique latine, le cobalt en RDC, tout ça ne suffira pas pour fabriquer des voitures électriques pour tous.
En tout cas, pas dans un horizon de temps de 30 ans pour être capable de les extraire. Il faut lancer des usines monstrueuses pour ça. En plus, on s'est fait la guerre plusieurs fois quand même sur la Terre à cause du pétrole parce qu'il était mal réparti sur la planète. Regardez le lithium. Le lithium, il y a 80% des réserves dans 3 pays. Le cobalt, il y a 50% des réserves mondiales dans un seul pays. Donc on a quand même un gros souci d'approvisionnement. Et ensuite, donc finalement, moi ce que je pense, un peu comme M. Morales, c'est-à-dire que en fait, on ne peut pas imaginer que ce soit les SUV qui captent la totalité des batteries. Les batteries, moi je milite plutôt pour faire une légère hybridation de la totalité des véhicules déjà. Faire des voitures électriques, mais que pour des usages qui sont vraiment du taxi, de la livraison urbaine. Et là, on n'est pas du tout dans ce que dit les véhicules dont parle M. Morales. Et ensuite, mettre de l'hybridation légère sur la totalité, je pense que ça ne le gênera pas du tout.
Qu'est-ce que vous appelez l'hybridation légère, concrètement ?
C'est d'être capable, quand vous êtes en ville, lorsque vous ralentissez, là vous êtes en ville, hein, vous n'êtes pas à la campagne. Vous êtes en ville, vous circulez en ville, et lorsque vous décélérez, en fait vous ralentissez, on récupère l'énergie de freinage. Voilà. On ne cherche pas à avoir une autonomie de 50 km, c'est pas ça. Donc ça ne sera pas une batterie extrêmement lourde qui va pénaliser le poids de la voiture.
C'est ça. Vous voyez, et ça ne serait pas non plus coûteux en électricité.
Voilà. Oui, non, pas du tout. D'ailleurs, elle n'est pas rechargeable, celle dont je parle. Voilà. Donc je pense que celle-là, elle conviendrait à M. Morales. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur la Chine. La Chine, elle est beaucoup plus préoccupée par ses smogs, c'est-à-dire la pollution de l'air, que par le CO2. Et ensuite, quand elle a adopté les normes euro, il faut bien voir qu'elle les a adoptées avec plusieurs années de décalage. Parce qu'elle n'a jamais été capable de les adopter en phase. La preuve, c'est qu'il n'y a aucune voiture chinoise vendue en Europe aujourd'hui. Alors qu'on est envahi de produits chinois. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux mesures qui se sont révélées protectionnistes, finalement. Était-elle l'intention de départ ? Je laisse la question ouverte. Qui sont les crash tests, la sécurité passive et les normes euro successives. Et lorsque les Chinois voulaient... Moi, je suis allé à des salons d'auto il y a 15 ans où il y avait des voitures chinoises et on vous disait, l'année prochaine, elles sont en vente en Europe. Et ils n'ont pas réussi à passer ni les crash tests, ni les normes euro de dépollution. Voilà.
Effectivement, sur la Chine, il y a quand même. La Chine, c'est le premier pays industriel au monde et elle entend bien le rester longtemps. Donc, pour la Chine, il y a plein de politiques publiques qui viennent en pleine contradiction, la politique environnementale, de développement socio-économique et les politiques industrielles. La Chine a quand même à cœur de devenir demain, et petit à petit elle le devient, le premier constructeur mondial de voitures. Donc, elle a un intérêt majeur à protéger son industrie automobile, d'où cette lenteur, cette grande résistance des systèmes.
Un auditeur nous appelle de Cotonou au Bénin au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Nel, soyez le bienvenu.
Bonjour à toute l'équipe de RFI, je m'appelle Nel.
Vous êtes en voiture ?
Oui, je suis en voiture.
Voilà, ça ne m'étonne pas. c'est votre voiture personnelle, Nel ?
Oui, c'est ma voiture personnelle.
Alors, que vous inspire le sujet de l'émission aujourd'hui ?
Alors, j'ai longtemps discuté avec des amis et mon avis il est simple en fait. En Afrique, nous avons un problème de définition de politique routière. En termes de réseau routier, en termes de transport en commun. Parce que moi je dis, c'est malgré moi que j'ai acheté une voiture. Aujourd'hui, nous n'avons aucune politique de transport en commun sur Cotonou ou sur le Bénin. Et du coup, on est tous obligés d'avoir chacun son moyen de déplacement. Mais ça a un coût. Moi, je me suis retrouvé à me taper une voiture à 10 000 euros alors que je n'avais que 30 ans, alors que j'avais d'autres investissements à faire. Et il ne faut pas oublier que d'ici 5 ans, je serai bien obligé de la changer. Donc, du coup, ça pèse finalement.
Vous serez obligé de la changer parce que vous avez acheté un véhicule d'occasion qui est déjà trop vieux, c'est ça?
Non, il n'est pas trop vieux, mais nous avons des problèmes de maintenance. Et ça, c'est tout un autre sujet. Moi, je rêve d'avoir des voitures ici écologiques et tout ce que vous dites. Mais en termes de maintenance, j'ai personne ici qui me la maintenir. Ouais.
Et là, maintenant, c'est de plus en plus compliqué avec le décalage technologique aussi, entre autres.
Exactement. Donc, je dis, mais que nos gouvernements, que nos dirigeants prennent des politiques audacieuses en termes de transport en commun. Et moi, demain, par exemple, je serais bien ravi de laisser ma voiture.
Mais vos dirigeants n'ont pas de problème de parc automobile. Hein. Donc, voilà. Merci, Nel, de nous avoir appelé, en tout cas, hein, pour ces réflexions qui enrichissent l'émission. Effectivement, là-dessus, vous êtes d'accord avec ce que nous dit notre auditeur, Jean-François Doulet.
Je pense que la voiture, il faut la voir comme un système socio-technique. Elle ne peut pas s'extraire comme ça, c'est pas un simple objet, c'est un objet qui est inséré dans nos modes de gouvernance, de régulation, dans nos pratiques de tous les jours. Et la voiture ne fonctionne bien que si elle est encadrée. Et pour être encadrée, il faut mettre en place les systèmes dont on reproche l'absence en Afrique. Des routes, politique de régulation, des vrais réseaux de réparateurs, de garagistes, etc., etc.
Il nous reste quelques secondes avant qu'on termine sur ce chapitre de la voiture, qui évidemment le sujet est loin d'être clos. Jean-François, Laurent Castagnède, la voiture idéale, en quelques mots, quelle serait-elle?
Mais c'est-à-dire que là avec l'appel du Togo et du Bénin, on voit bien qu'au Togo, on a envie d'avoir une voiture, et puis quand on en a une, on se rend compte qu'en fait, on est obligé d'en avoir une. Donc c'est ce qui est terrible dans l'automobile aujourd'hui, c'est les usages contraints. C'est-à-dire exactement, Monsieur Morales, lui, il prône pour une voiture qui serve aux loisirs, et je suis d'accord avec lui. En fait, le souci aujourd'hui, on a beaucoup trop de voitures et beaucoup trop d'embouteillages et de pollution, parce qu'on a un usage, notamment domicile-travail de la voiture individuelle, qui est catastrophique. Vous enlevez tout le domicile-travail, je vous promets, la voiture, ça va de nouveau être le bonheur dont parlait M. Morales il y a 30-40 ans.
Il n'y aura pas forcément autant d'appétit pour la voiture. Thomas Morales, juste quelques secondes, la voiture idéale pour vous aujourd'hui, est-ce qu'elle existe encore d'ailleurs?
Pour les gens qui aiment comme moi les voitures sportives, elle existe quand même. Hein. Si on fait un tour sur le mondial de l'auto, on ne peut pas rester
un coup de cœur là.
Une Porsche 911 Speedster, voilà.
D'accord, et ben c'est à la portée de toutes les bourses, ça ne fait pas de doute. Merci à tous les trois. Thomas Morales, Défense d'une espèce en voie de disparition aux éditions du Rocher, c'est vraiment une ode à la voiture, très poétique. Laurent Castagnède, Hervor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée aux éditions Éco-Société. Et Jean-François Doulet, l'atlas de l'automobile, très très didactique aux éditions Autrement. Merci à tous les trois. Dans quelques instants, c'est l'Afrique qui gagne, avec ou sans voiture.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Portrait d'Esther Anakajigo. C'est une jeune Ougandaise de 23 ans. Elle vient de lancer sa propre émission de télé-réalité Saving Innocence Challenge en Ouganda, qui est diffusée sur une chaîne nationale, qui a été distinguée par l'Union européenne comme l'un des meilleurs projets menés par des jeunes femmes dans le monde. À l'écran, des jeunes filles de quartiers défavorisés de Kampala, la capitale, se rendent dans des villages reculés du pays pour rencontrer des filles mères déscolarisées, avec une mission: convaincre les parents de les inscrire à nouveau à l'école, dans un pays où on a quand même un quart des adolescentes de 15 à 19 ans qui ont déjà été enceintes. Charlie Dupuis a rencontré cette jeune productrice engagée devant l'un des épisodes de sa télé-réalité.
Join this challenge to help my fellow teens out there.
I want to live in that life and I feel like I can help all the others. I can change their lives and help them know that life, however hard it is, it's not an end. You can always have a better life.
These are girls who share their stories. These are child mothers.
Là, on voit des jeunes femmes qui racontent leur histoire. Ce sont des filles mères, des filles qui ont eu un enfant avant l'âge de 18 ans. Certaines ont été violées, d'autres n'avaient pas eu d'éducation sexuelle, ne savaient pas ce que cela voulait dire. Et elles partagent ce qui leur est arrivé. Elles vivent dans le district de Kalangala. Ce sont des îles sur le lac Victoria, dont 57% des habitants sont séropositifs. Pour la première saison de notre télé-réalité, Saving Innocence, les filles participantes sont allées sur ces îles. Nous avions alors 20 groupes pour 20 écoles, des groupes de 3 filles. Là, vous les voyez quitter la capitale Kampala et ses bâtiments pour se diriger vers le village. On les voit à bord du ferry qui les transporte jusqu'au village. Là, vous voyez les collégiennes participantes qui traversent la forêt épaisse pour rejoindre les filles mères. Il pleut. C'est difficile d'arriver jusque là-bas. Elles y restent 2 semaines avec des caméras tout du long. Ces filles de Kampala que vous voyez viennent de bonnes familles. Elles ne manquent de rien. Elles sont scolarisées dans des collèges privés.
Et on voit effectivement des groupes de jeunes femmes, là, à l'image, qui se mettent à la place de filles mères, donc qui cuisinent, là, on les voit cuisiner.
Oui.
Ça peut faire un peu aussi cliché des filles plutôt privilégiées, qui viennent de milieux privilégiés, qui vont dans la campagne découvrir, entre guillemets, la vraie vie.
It's not a cliché, because these girls, I would say...
Ce n'est pas un cliché, c'est vrai, ces filles sont privilégiées. Mais elles pourraient très bien rester loin de tout ça. Et l'intérêt de tout cela, c'est qu'il s'agit d'une télé-réalité, c'est donc une compétition. La meilleure équipe, celle qui arrive le mieux à aider les filles mères du village concerné, gagne un prix à la fin de la saison. Et rien que dans ce district de Kalangala, où nous sommes allés, plus de 85 filles ont pu retourner à l'école grâce à notre télé-réalité. Elles sont toutes filles mères et avaient été déscolarisées pour devenir des épouses et des mères au foyer. Mais pendant le tournage, certains parents ont refusé d'envoyer leurs filles à l'école en disant « Nous n'avons pas d'argent, mais si vous voulez financer les études de notre fille, allez-y ». Alors les participantes de notre télé-réalité se sont débrouillées et ont cherché un moyen de financer la scolarité de ces filles. Là, vous voyez une fille qui avait 15 ans quand elle a accouché. Elle est tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Les participantes de la télé-réalité l'ont aidée à monter un commerce pour qu'elle puisse continuer à aller à l'école. Elle cuisine et vend du thé. Elle va à l'école jusqu'à 16h. Puis, à 17h, elle se rend au centre commercial pour y vendre ses plats. Grâce à cela, elle peut subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant. Elle peut même donner de l'argent à sa famille.
Comment vous est venue cette idée d'une télé-réalité ?
J'ai entendu cette phrase d'un homme savant. Parlons aux jeunes avec les mots qu'ils comprennent. Pour moi, il ne faut pas avoir recours aux méthodes traditionnelles pour faire passer des messages, des méthodes que les jeunes détestent, les conférences, le blabla. Non, leurs modèles sont Beyoncé et Rihanna. Où sont-elles ? À la télé. Pourquoi alors ne pas leur donner d'autres modèles grâce à la télé ? Leurs propres modèles. C'est en cela que c'est très intéressant. Le public regarde ce que font nos jeunes participantes à la télé et ils votent. Les spectateurs votent pour l'école dont les jeunes élèves ont été, selon eux, le plus efficaces pour aider les filles mères à retourner à l'école. Et nous recevons de nombreux appels de tout l'Ouganda, de filles qui veulent montrer ce qu'elles font et passer à la télé. Cette télé-réalité est née de ma propre initiative, sans financement au départ. J'ai grandi dans un bidonville du centre de Kampala, un quartier qui connaît beaucoup de prostitution, de pauvreté et de drogue. J'ai eu envie de m'engager pour aider les jeunes filles après avoir perdu une camarade de ma classe à cause de la prostitution. Trois hommes l'ont violée et l'ont tuée après l'avoir droguée. Elle avait seulement 13 ans. Ensuite, je suis devenue bénévole dans un centre de santé pour parler à des adolescents de mon âge et leur distribuer des préservatifs. Bien sûr, j'ai été critiquée. On en venait presque à me traiter de prostituée. J'ai pu quitter le bidonville à l'âge de 14 ans. Mes parents ont eu de meilleurs salaires. J'ai pu aller dans un collège privé. C'est là que j'ai réalisé à quel point la vie de mes nouveaux camarades était différente de ce que j'avais connu jusque-là. Leur vie, c'est seulement les réseaux sociaux, les téléphones. Leur plus grand problème parfois, c'est de savoir si la connexion Wi-Fi fonctionne ou non. Moi, j'avais vu une autre version de la vie.
Qu'est-ce que c'est pour vous, l'Afrique qui gagne ?
On ne peut pas parler de façon réaliste d'une Afrique qui change, qui s'améliore si on ne résout pas les problèmes de gouvernance. Pendant longtemps, nous nous sommes tournés vers le gouvernement. Nous lui avons demandé de l'aide, par exemple, pour qu'il soutienne les filles. Mais en attendant, pourquoi nous, les filles et les jeunes en général, pourquoi ne commencerions-nous pas quelque chose ? Ma télé-réalité, Saving Innocence, c'est l'une des solutions, une solution pratique. Ce programme de télé-réalité, c'est ça l'Afrique qui gagne pour moi. L'Afrique qui se met debout. C'est une démarche pour les jeunes, faite par les jeunes, portée par les jeunes, et le changement sera visible.
Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission chaque jour, 7 milliards de voisins. Merci à Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment réécouter toutes nos émissions en podcast et sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique magazine, ou nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, on mange quoi ? Comment questionner le marketing et l'industrie agroalimentaire dans nos assiettes ? Bien évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions. Un de nos invités a travaillé plusieurs années dans l'industrie agroalimentaire. Il a pas mal de révélations à faire. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone de notre standard et c'est aussi un numéro de téléphone WhatsApp sur lequel vous pouvez nous laisser des messages audio. À demain les voisins.